segment Showbiz.
Showbiz.
Avec
showbiz,
Alexandra showbiz, Tremblay.
Showbiz. 15h23 minutes. Vous savez, il y a ces moments dans la vie d'un animateur de radio, un journaliste dont on va se souvenir toute notre vie.
Ouais.
Entre autres, lorsque j'étais en onde. Et qu'un avion, le premier avion, a foncé dans une des tours des World Trade. Et ce matin, ça a encore été un événement relativement marquant. Je vous raconte, Maxime me dit, Richard, Renaud Lavoie vient de tweeter que Carey Price prend une pause pour une durée indéterminée et qu'il a demandé l'aide du programme des joueurs de la LNH. Je peux vous dire qu'il y a eu tout un branle-bas de combat dans la salle des nouvelles. Et là, on entrait en onde à 11h. Le point de presse était à 11h15. Moi, je devais fournir des extraits pour Simon. Donc, c'est comme ça que ça marche. Mais je pense que le public est curieux d'avoir les dessous de la radio et surtout de la télévision.
L'envers du décor, en fait. Et c'est ce que traite ce tout nouveau livre qui est sorti officiellement hier, qui s'appelle « Aventure au pays des nouvelles télévisées ». Donc, en gros, c'est écrit par un homme qui a été le seul à avoir dirigé les salles de nouvelles des deux principales chaînes de télévision québécoise, c'est-à-dire TVA et Radio-Canada. Donc, il a géré les deux salles de nouvelles. Et il raconte un peu ce qu'il a vécu et des faits cocasses par rapport à ces deux stations télé-là et comment est-ce qu'on met en onde des bulletins de nouvelles, comment est-ce qu'on construit tout ça, comment ça fonctionne, cette bibitte-là. Et il va passer en revue dans le livre, en fait, plein d'événements marquants. Tu sais, tu as parlé du 11 septembre, mais c'est abordé dans le livre. Mais comment est-ce que eux, la salle de nouvelles, ont vécu ça à l'interne? Comment est-ce qu'on gère cette crise-là? Mm-hmm. Par quoi on commence, tu comprends?
Okay.
Et avant de passer à l'entrevue, je veux te lire un passage du livre.
OK.
OK, parce que j'ai eu un exemplaire du livre, et c'est dans le passage concernant la crise d'Oka. Okay? Ça s'appelle « Leçon américaine ». Il dit « J'avais été impressionné par la couverture exceptionnelle qu'avait faite la station KGO de San Francisco lors du tremblement de terre qui a détruit une partie de la ville en octobre 1989. Tellement que je me suis permis de passer un coup de fil au directeur de l'information de la station, Harry Fuller, que je connaissais déjà pour l'avoir rencontré au congrès de l'Association américaine des directeurs de l'information. Fuller m'avait dit, et ça va tellement te parler, Richard, « J'ai un conseil pour toi, Philippe. Quand l'événement se produit, n'attendez pas d'être prêt. Allez en onde tout de suite avec les moyens du bord et gardez l'antenne le plus longtemps possible. » Il avait ajouté « Et assure-toi d'avoir de l'argent comptant dans la petite caisse et de l'essence dans ta génératrice. »
Mon Dieu.
La principale leçon dans l'expérience de KGO était la suivante. Dans une crise majeure, surtout une crise qui touche le quotidien des gens, l'auditoire n'en a jamais trop. Il reste rivé à son écran et en redemande.
Et oui, que ça me parle. Hein?
Le nombre
d'opérations tempête qu'on a fait, Maxime...
tu ne m'inclus pas là-dedans.
Oui, mais on n'a pas eu, mais le nombre de. Où on a terminé à 19h. Puis il y a quelqu'un dans le réseau Cogeco qui nous faisait remarquer, puis ça, c'est considéré comme un sacrilège par les patrons, qu'on n'hésite pas à interrompre les pauses publicitaires quand il y a un accident, quand c'est important, puis même quand c'est pas important. Mais pour moi, c'est ça. L'information, c'est là maintenant. Alors j'ai l'impression que Philippe Lapointe aurait été un bon boss pour moi. Bonjour, Philippe Lapointe.
Oui, bonjour, Richard. Bonjour, Alexandra. Merci de m'avoir invité, puis je vous écoutais parler, puis effectivement, c'est un métier de fou, puis c'est pas un métier pour les gens c'est un métier pour les gens qui ont les nerfs un peu solides, puis qui sont prêts à vivre de l'imprévu, parce que c'est ça la beauté de ce métier-là, c'est les imprévus. Puis ça me faisait rire d'entendre le conseil de Fuller, parce qu'il disait que c'était pas très pratique, hein, surtout d'avoir du gaz dans ta génératrice.
Puis, c'est ça. Hey, on va vider la question, l'éléphant dans la pièce, là, parce que je vois que vous avez travaillé avec Pascal Nadeau. Alors, est-ce une fausse fine?
Écoute, moi, je ne jouerais pas au gérant de stade. Je n'étais pas là. Puis j'ai trop de respect pour le métier de patron d'information que j'ai pratiqué longtemps pour me mettre à faire des jugements à la porte-pièce. Une fois j'ai dit ça, là, moi j'ai travaillé avec Pascal pendant beaucoup d'années, au quotidien. C'est une fille que j'admire, c'est une fille que j'aime, c'est une fille que je respecte, c'est une grande professionnelle. Moi, j'ai jamais été témoin de rien qui ressemblait à ce que j'ai vu dans les journaux. Jamais rien. Alors, tu sais, je peux pas dire.
Voilà, merci. Question réglée. On procède.
Ouais.
Ben, je me demandais, M. Lapointe, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce livre-là pour le grand public?
Ben, je trouvais, comme vous le racontiez un peu, que c'est une histoire qui intéresse les gens. Je pensais que c'est une histoire qui intéresse les gens, puis je suis assez convaincu. Parce que c'est une histoire qui était intéressante. C'est aussi une partie de l'histoire du Québec et de l'histoire du monde, dans le fond, telle que les Québécois l'ont vu à la télévision. C'est des événements comme le 11 septembre, comme la crise d'Oka, comme la mort de Lady Diana, comme le déluge du Saguenay que vous avez, pas toi, Alexandra, parce que tu n'étais probablement pas encore née.
J'étais dans le ventre de ma mère.
Dans le ventre de ta mère, donc, mais ta mère pourrait t'en parler.
Ouais, okay, mais, oui, oh que oui!
C'était tout un événement, et puis c'est un bon exemple. Quand est arrivé le déluge du Saguenay, mais le déluge du Saguenay a aidé à mettre RDI sur la carte, comme on dit, puis parce que c'est des événements que les Québécois ont vu à la télévision, puis moi, je trouve ça intéressant de raconter comment ça se passe dans les coulisses. Et comment, tu sais, dans le cas du déluge du Saguenay, par exemple, Louis Lemieux, qui était un journaliste de Radio-Canada, qui était un gars très, très débrouillard, lui, il était en congé sabbatique en train d'écrire une thèse de maîtrise à l'Université de Chicoutimi. Il n'avait pas. Mais quand c'est arrivé, il a réappliqué tout de suite, puis il a passé les semaines d'après sans dormir, puis la thèse a pris le bord, on comprend-tu? Alors, puis là, tu te fâches pas dans le budget. T'sais, c'est sûr que de temps en temps, tu n'aurais pas pensé, tu t'écoutes comment je pourrais arriver, je sais pas. Le plus de pause, plus de mystère, puis on dépense comme t'es perdu. Mais à quelque part, ça a mis RDI sur la carte. C'était le fun. Puis l'autre raison pour laquelle j'ai écrit, c'est que non seulement c'est intéressant, mais c'est important aussi. Parce que le métier de journaliste est un petit peu prise à partie des fois. Et, oui.
Surtout depuis le début de la pandémie, hein, Philippe?
Oui, mais c'est un bon exemple, tu sais, parce que tu donnes, parce que tu vois, quand les par exemple, au début de la pandémie, quand le premier ministre Legault faisait ses points de presse, ben il y a des journalistes qui posaient des questions plates, tu sais, puis des journalistes, des fois, c'est un peu emmerdant, mais c'est leur job, tu sais, je veux dire, c'est à ça que ça sert. C'est ça le quatrième pouvoir, mais c'est des journalistes, ça pose des questions que d'autres posent pas, puis en quelque part, c'est essentiel dans notre société d'avoir des endroits où il y a une presse qui est forte, qui est libre, qui est indépendante, qui vérifie ses faits avant de dire n'importe quoi et qui fonctionne avec des politiques d'information, des politiques journalistiques, puis des codes d'éthique. T'sais. Et moi, je voulais montrer comment ça se passe dans ces grandes organisations-là qui sont fiables. À une époque des médias sociaux, il y a beaucoup de fake news, puis je crois que c'est le fun de revenir à ça. Et en même temps, je voulais pas que ce soit plate, je voulais pas que ce soit une thèse universitaire. J'ai raconté ça à travers des histoires, des anecdotes, puis sur des gens connus.
Puis tu sais, vous avez même parlé aussi dans le livre à certaines personnes concernées là, qui donc ont été avec vous là, pendant ces années-là.
Oui, mais ça a été une expérience extraordinaire pour moi parce que tout le monde. Moi, j'ai eu la chance de travailler au quotidien avec Bernard Dorome, on parlait de Pascal Nadeau tantôt, mais tu sais, Pierre Bruno, Jean-Luc Mongrain, Guy Mongrain, Jacques Moisan, Alain Grevel, Sophie Thibault, que j'ai nommé dans son travail.
Le père de Pascal aussi, Pierre.
Pierre Nadeau, tu sais. Puis moi, quand je suis arrivé à Radio-Canada, on s'est entendu que des gens comme Pierre Nadeau et Bernard Dorome, c'était mes idoles. Moi, là, ces gens-là, c'est des immenses stars de l'information. Alors, moi, j'arrivais pour travailler avec eux. C'était un privilège incroyable. Alors, ça a été une. Puis tout le monde m'a rappelé. J'ai parlé à vraiment beaucoup de gens, j'ai fait beaucoup d'entrevues et tout le monde est dans le livre, alors j'ai trouvé ça une belle expérience.
Qu'est-ce qu'on répond? On l'a effleuré avec la pandémie à ces auditeurs qui disent on sait bien, hein, vous êtes payés par le gouvernement pour dire ça, puis certains médias ont des billets, puis sont influencés par les grands de ce monde. Vous qui avez travaillé à TVA et à Radio-Canada, vous avez été des deux côtés, hein, du côté du diffuseur public, du côté de TVA qui est privé.
Oui, dans les deux,
est-ce qu'on a des bons journalistes puis des bons organes de presse au Québec, fiables?
Oui, absolument. Moi, je dirais que les médias, les grands médias, tu sais, comme TVA et Radio-Canada, il y a des différences de ton, de style, puis on peut aimer mieux un que l'autre et tout, c'est normal. Bon. Mais au final, c'est des organisations sérieuses qui font un travail sérieux, qui sont fiables, qui sont bien structurées, qui ont des cultures journalistiques importantes. Le danger, c'est les médias sociaux, parce que on fait juste les algorithmes qui sont un peu une folie. Puis d'ailleurs, il suffit de googler Google Kayak sur ton iPhone, puis tu vas être inondé d'annonces de kayak. Mais si tu googles la Terre est plate, puis je crois que la Terre est plate, ben tu vas devenir ami avec les 488 personnes et quart qui pensent que la Terre est plate, puis tu vas te convaincre, puis tu recevras des nouvelles comme quoi la Terre est plate, puis en fait, tu vas penser que la Terre est plate.
Oui, ben oui.
Je regrette, champion, la Terre n'est pas plate. sais. Alors, il faut que... C'est pour ça que les grands médias actuellement font un genre de retour comme des valeurs refuges. Si on veut savoir si c'est vrai, on va voir sur des marques qui sont fiables. Là. C'est, comme Radio-Canada, TVA, puis le New York Times, puis Washington Post, puis Le Monde. Chez Cogeco Information, tu sais, c'est des Québécois, c'est des entreprises solides et fiables. Mais imparfaites, tu sais, c'est des humains. Moi, j'ai voulu montrer comment ça se passait pour vrai. Puis si vous regardez, vous lisez le chapitre sur le référendum de 95, j'aborde ça en toute franchise. Il y en a eu des pressions politiques sur Radio-Canada pendant le référendum de 95. J'ai eu des pressions fédérales. C'est une entreprise fédérale. Il y a eu des pressions du camp du oui aussi, des pressions des deux bords. Ça venait tous les bords.
Oui.
C'est normal, c'est la nature de la business, si on veut. Ce qui est formidable, c'est que la machine a tenu le coup, puis on a fait une information quand même objective, de qualité, puis bien faite. Jamais parfaite, c'est des humains, mais c'est un travail qui est bien fait.
Quel est pour vous le moment marquant de votre carrière?
Écoute, en information, je pense que le 11 septembre est le moment marquant. Tu sais, les gens, tout le monde à peu près qui est un peu plus âgé que toi, Alexandra, se rappelle qui était où le 11 septembre.
Ouais.
C'est un événement qui a marqué beaucoup de gens. Puis le monde a basculé le 11 septembre, le monde a changé. Et donc, sur le plan de l'information, c'est un peu tordu, mais c'est là, pas tordu, mais c'est un peu un drôle d'état d'esprit. Parce que quand il arrive une grosse nouvelle, on est comme content parce qu'on dit on a un lead, on a une nouvelle de
ouais.
Puis c'est vrai, comme quand il y a eu le déluge du Saguenay, c'est pareil. C'est pas une bonne nouvelle.
Mais Philippe, je fais une parenthèse, je reviens sur la pandémie. C'est la même chose avec la pandémie. Je veux dire, c'est vraiment triste ce qui est arrivé au cours là, des deux dernières années, mais quand c'est arrivé, les gens se sont tournés massivement vers la radio parler. On est en train de vivre, Philippe, quelque chose de particulier. Là, on est sur la fin de la quatrième vague. On a l'impression qu'on n'a plus rien à raconter.
Il y en a toujours à raconter. Puis la beauté de la nature humaine, c'est qu'il va en arriver d'autres.
Ouais.
On ne voit pas venir encore. Il va arriver d'autres choses. La radio parler, ben moi, j'ai travaillé en radio. J'étais aussi le patron de la radio parler de Cogeco, justement. Puis j'ai surtout travaillé en télévision. Mais c'est sûr que la radio parler a un rôle... un rôle essentiel, tu sais, l'instantanéité et tout. Mais tu sais, c'est ce que j'ai voulu raconter dans mon livre. T'sais, j'ai voulu que ça se lise comme un roman, que ce soit grand public, que ce soit le fun à lire quelque part, tu sais, parce que et puis évidemment tout le monde m'a parlé. Puis les gens, ça va leur rappeler des souvenirs, mais ça va aussi j'espère faire réfléchir un peu à l'importance de ce métier-là de journaliste. Puis au danger des fake news et des algorithmes là, que les gens croient sur les médias sociaux. On pense à la pandémie, là, tu sais.
Ouais.
Ce qui est le plus difficile dans le cas du journalisme, c'est que c'est jamais absolu. Tu sais, le journaliste cherche la vérité. La vérité évolue selon les nouveaux faits. Tu sais.
Philippe Lapointe, je conseille votre ouvrage paru aux éditions Libre Expression à tous les jeunes d'ATM. Vous savez qu'on a ATM à Jonquière. Peut-être même vous allez nous... Souvent, il y a des gens qui disent « Ouais, j'ai été en ATM. Moi, tout le monde est fier. Avez-vous fait ATM, vous, Philippe? »
Moi, j'ai pas fait ATM, mais j'en ai engagé beaucoup de monde de l'ATM. Mais vous savez, par exemple, Alain Gravel, il a fait l'ATM. Il y en a plein qui ont fait l'ATM. Super école. D'ailleurs, je suis posé aller bientôt, là, au mois de novembre, le rencontrer les j'ai bien hâte.
Ben, on vous attend en studio. L'invitation est lancée. Et je rappelle le titre.
Ça va me faire un immense plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité.
Oui, alors, puis je pense qu'on se serait bien entendu. Vous m'auriez laissé couper une pause pour annoncer qu'il y a un véhicule en panne, coin Barrette et Talbot. Je suis convaincu
aussi.
Merci, Philippe.
Salut. Bonne journée.
Bye bye. Philippe Lapointe, donc l'auteur de Aventure au pays des nouvelles télévisées.